Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quelle réponse d'Emmanuel Macron à la mobilisation des Gilets jaunes? C'est pour eux que le chef de l'État doit prendre la parole ce soir à 20h dans les médias. Une allocution lors de laquelle le gouvernement promet des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat.
Avant cela, le chef d'État rencontrera ce matin les partenaires sociaux et certains élus à l'Élysée. Nous analyserons la méthode utilisée.
Et puis nous nous demanderons quel impact la réponse d'Emmanuel Macron peut avoir sur sa politique européenne. Nous joindrons pour cela le politologue Stéphane Rosès, invité de ce journal.
Et puis dans cette édition encore, nous irons en Belgique où la coalition a volé en éclats hier à cause du pacte sur les migrations de l'ONU. Le Premier ministre souhaite le signer. Les nationalistes flamands se retirent.
Et puis vous entendrez des Gallois qui étaient pro-Brexit il y a 2 ans et qui doutent aujourd'hui. Le Parlement britannique votera demain pour ou contre le texte négocié avec Bruxelles. La ministre du Travail promet des mesures concrètes et immédiates. Nous n'en saurons pas plus ou presque. Emmanuel Macron doit reprendre publiquement la parole après 2 semaines de silence. Le chef de l'État s'exprimera ce soir à 20h à propos de la mobilisation des Gilets jaunes. Avant cela, il reçoit ce matin les organisations syndicales et patronales représentatives ainsi que les présidents du Parlement et du Sénat, des associations d'élus territoriaux, président de l'Assemblée nationale donc et du Sénat à l'Élysée ce matin. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Après 4 semaines de mobilisation des Gilets jaunes qui demandent plus de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, Anne, change la méthode.
Oui Clara, rien ne sera plus comme ces 18 derniers mois. La marque de fabrique du macronisme, réformé vite, sans jamais reculer et au mépris des corps intermédiaires, a désormais fait date. Jupiter n'est plus sous la pression de la rue, il va devoir se réinventer. Est-ce seulement possible? L'allocution de ce soir nous le dira. Les enjeux sont de taille. Comment ramener le calme dans le pays? Quelles mesures immédiates pour améliorer le quotidien des Gilets jaunes? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a calmé les ardeurs hier en fermant la porte à un coup de pouce au SMIC qui pourrait détruire, selon elle, des emplois. L'exécutif plancherait plutôt sur une prime défiscalisée pour les salariés, prime qui serait versée par les entreprises. Le passage est étroit pour le chef de l'État qui est contraint par les 3% de déficit budgétaire, déficit sous lequel la France doit se maintenir pour respecter la doxa européenne, mais des voix dans la majorité s'élèvent pour s'en affranchir. Enfin, autre question de taille, comment redonner confiance et envie dans la politique de ce président dont une partie des Français se sentent méprisés? Hier, plusieurs ministres sont montés au front pour délivrer quelques conseils. Ainsi, Jean-Yves Le Drian parlant d'un nouveau contrat social dans l'émission Le Grand Jury.
Il faut maintenant que l'on passe au cahier des solutions. Et les cahiers des solutions ne viennent pas d'en haut obligatoirement, elles viennent du débat qui va être initié, qui va durer jusqu'au mois de mars, et qui ne doit pas être un débat d'entourloupe, mais qui doit être un débat de propositions qui puissent ensuite être remontées, regroupées, pour faire en sorte que l'on marche vers un nouvel État-providence, un nouveau contrat social dans le pays.
Voilà pour le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'heure des territoires a sonné, témoin de cette ouverture et de cette sortie de la verticalité tant reprochée au chef de l'État. La conférence sociale organisée aujourd'hui à l'Élysée. Les représentants des associations des élus seront présents, mais aussi les présidents des 3 chambres ainsi que les syndicats et les représentants du patronat.
Merci Anne Fauquemberg. À quelques heures donc de cette rencontre à l'Élysée, nous accueillons maintenant Stéphane Rosès, invité de ce journal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po et HEC, président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. Nous venons d'entendre, Stéphane Rosès, les quelques pistes envisagées pour satisfaire les Gilets jaunes. Emmanuel Macron peut-il répondre à l'urgence sociale en France tout en respectant ses engagements européens et notamment contenir le déficit français?
Eh bien, vous pointez là le sujet essentiel qui fait au fond les tensions du pays dans son rapport au président et dans son rapport au quotidien social. La réponse est sans doute non. Pourquoi? Parce que l'urgence sociale, le pouvoir d'achat, au fond, n'est que l'expression d'un dysfonctionnement de notre modèle français, de notre modèle social, qui lui justement ne peut pas, Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs lui-même indiqué à Bucarest, s'enclaver dans des disciplines immédiates, parce que la France est un pays qui fonctionne à la vision. Son génie, c'est de se projeter. Or, la politique comptable du rabot, tous les ans être sous un déficit, empêche notre génie économique, social, politique à se déployer, d'où le retour de la dépression, parce que quand Angela Merkel à Aix-la-Chapelle a dit qu'elle ne faisait pas bouger l'Europe, les politiques qui étaient déjà jugées injustes dès le conflit des cheminots, ne semblant plus être légitimées, alors la question de l'injustice sociale est revenue au premier plan. Donc le sujet est bien celui-là. Au fond, une photo montrait un rond-point « Macron nourrit ton peuple », il y a dans « nourrit » la question sociale, et puis « ton peuple », c'est la question de la chatrie. C'est Emmanuel Macron mène-t-il une politique qui est celle demandée par la nation, ou obéit-il au fond à des logiques extérieures comme ses prédécesseurs qu'il dénonçait lui-même puisqu'il avait dit qu'il avait été élu d'abord sur la restauration de la souveraineté nationale.
Et Stéphane Rosès, est-ce qu'une politique économique souveraine de la part de la France pourrait affaiblir Emmanuel Macron au sein de l'Union européenne ou bien au contraire peut-il s'en servir pour fédérer ensuite autour de lui ?
Alors, la question est très importante. Au fond, il faut revenir à la crise européenne, la montée des nationalismes et des populismes. Au fond, mon analyse est que la gouvernance et les politiques européennes sont contraires au génie européen et que la montée des nationalismes et populismes viennent de ce que les imaginaires de chaque peuple différent sont déstabilisés. Donc, il pourrait tout à fait profiter de cette crise pour dire à nos amis allemands et à Bruxelles, j'ai besoin, comme tous les autres peuples, de marge de manœuvre pour d'abord remettre en marche mon peuple et, par ailleurs, faisons des projets communs avec des ambitions communes, investissons dans l'avenir, ce qui est à peu près le contraire de ce qui se fait aujourd'hui.
Stéphane Rosès, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la société Conseil, Analyse et Perspective. Pour plus d'analyses sur la politique intérieure, vous retrouverez Frédéric Seyss et son billet politique sur France Culture après ce journal. Il se demandera si Emmanuel Macron doit se remanier lui-même. Aujourd'hui, sachez que les députés socialistes, communistes et les députés de la France insoumise déposeront une motion de censure contre le gouvernement. Elle ne sera pas débattue avant mercredi ou jeudi et n'a a priori pour le moment aucune chance d'être adoptée. Au chapitre des mobilisations sociales encore, les routiers, rappelons-le, ont annulé leur mouvement en fin de semaine dernière. Les agriculteurs hésitent malgré l'appel de la présidente de la FNSEA. Les décrets de la loi alimentation reportés dernièrement seront soumis au Conseil des ministres ce mercredi. Pas d'hésitation en revanche du côté des lycéens. Par le biais du syndicat l'UNL, ils appellent aujourd'hui à la solidarité avec leurs camarades de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines qui avaient été mis à genoux jeudi par la police. Les lycéens qui annoncent par ailleurs une revanche lycéenne demain mardi. Il vient de passer 22 jours en garde à vue au Japon et pourrait y rester de nouveau 22 jours. Carlos Ghosn a encore été inculpé ce matin, accusé d'avoir dissimulé une partie de ses revenus, soit près de 38 millions de dollars. Cette fois, la mise en examen concerne une autre période, de 2015 à 2018. Le groupe automobile Nissan, que Carlos Ghosn dirigeait avant sa garde à vue, Nissan donc n'est pas épargné, puisque la responsabilité de l'entreprise est, selon le parquet japonais, engagée dans cette affaire.
Il est 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les représentants de plus de 150 pays se retrouvent aujourd'hui et demain à Marrakech, au Maroc.
Oui, ils doivent y adopter le pacte mondial des Nations Unies sur les migrations, pacte décrié par l'extrême droite européenne, notamment par l'Autriche, les pays du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, décrié également par la Lettonie, la Bulgarie et l'Italie. En Belgique, hier, le texte a fait tomber le gouvernement. Les ministres nationalistes flamands de la coalition ont démissionné à cause de divergences sur ce pacte international sur les migrations. Et ce n'est pas la première fois que les questions migratoires sont source de tensions au sein du gouvernement belge, Johanna Hochstein.
Il y a d'abord eu l'affaire des migrants soudanais expulsés vers leur pays d'origine, des migrants qui auraient été torturés à leur retour. Le Premier ministre belge avait à l'époque annoncé le gel de ces expulsions, le temps d'une enquête, une décision qualifiée d'absurde par les ministres nationalistes flamands. autre dossier, les visites à domicile pour arrêter les migrants en séjour irrégulier, un projet porté par les ministres de la NVA qui a suscité beaucoup de critiques au sein même de la coalition gouvernementale. Et puis maintenant, il y a le pacte sur les migrations de l'ONU, soutenu par l'ensemble du gouvernement, à l'exception des membres de l'Alliance néo-flamande. Un texte qualifié de porte ouverte à l'afflux de migrants clandestins, selon ses détracteurs. La NVA s'est toujours montrée très ferme sur les questions migratoires, mais il semblerait qu'elle ait choisi de durcir le ton, quitte à démissionner du gouvernement en vue des élections législatives de mai prochain, une stratégie qui viserait à capter l'électorat d'extrême droite lors du prochain scrutin.
Les nationalistes flamands qui craignent donc une arrivée en nombre de migrants clandestins après la signature de ce pacte de l'ONU, on l'a compris. Voici une fausse information de plus à propos de ce texte qui doit en fait permettre de renforcer la coopération internationale pour une migration présentée comme sûre, ordonnée et régulière. À ce propos, la France tente de faire de la pédagogie, s'interrogeant Marie-Pierre Véraud sur les racines de cette désinformation.
Mais comment donc un texte censé maîtriser les migrations, placer les pays d'origine et de transit face à leurs responsabilités et lutter contre l'immigration clandestine peut-il aujourd'hui, en Europe et au-delà, hystériser à ce point les débats et provoquer des crises gouvernementales comme en Belgique ou en République tchèque ? La diplomatie française, qui continue à soutenir ce pacte et enverra le secrétaire aux affaires européennes à Marrakech, ne sait plus comment faire prévaloir la voix de la raison face aux intox qui se multiplient. Non, il ne s'agit pas de créer un droit à la migration, ce qui n'a aucun sens. Non, il ne s'agit pas de contraindre les États, leur souveraineté est bien rappelée en matière de politique migratoire. Pas d'obligation juridique donc, mais un besoin accru d'une coopération internationale face à un phénomène qui prend de l'ampleur. Le pacte dit bien son objectif, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, il recense les bonnes pratiques, lutter contre les filières de passeurs et le travail clandestin, mieux organiser le retour des migrants irréguliers et le contrôle des frontières. Mais c'est vrai qu'il rappelle aussi quelques principes, les droits de l'homme qui concernent aussi les migrants. Il prend acte du fait que la migration appartient à l'histoire de l'humanité, qu'elle est aussi porteuse de bénéfices pour les communautés d'accueil. C'est visiblement trop pour les partis nationalistes qui ont entrepris de l'instrumentaliser, déplore l'ONU, et d'en faire un argument électoral.
Il a largement remporté son pari. Nicole Pachinian, premier ministre sortant d'Arménie, arrive en tête lors des législatives anticipées qu'il avait lui-même provoquées. Le réformateur veut ainsi renforcer son pouvoir quelques mois après son arrivée à la tête du pays grâce à un soulèvement populaire. Il emporte plus de 70% des voix. Révolution pacifique, acte 2 en Arménie. C'était la question, le thème des enjeux internationaux de Xavier Martinet ce matin, à réécouter dès maintenant si vous le souhaitez sur franceculture.fr. Le calendrier n'est pas reporté, le vote est pour mardi. Le gouvernement britannique s'est employé à écarter les rumeurs d'un éventuel report du vote prévu au Parlement. Les députés doivent approuver ou non le texte négocié par Theresa May sur le Brexit. Les députés doivent l'approuver ou non demain mardi. La première ministre britannique n'a toujours pas de majorité pour l'heure. Une incertitude qui pèse sur les Britanniques et notamment sur ceux qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne lors du référendum de 2016 et qui aujourd'hui doute. Rencontre ce matin à Swansea, dans un ancien bastion houillé du Pays de Galles. C'est un reportage d'Isabelle Labéry.
Elle est venue au marché de Noël savourer les odeurs de sapin et de chocolat chaud.
My name is Vivienne.
Caissière à la retraite, en 2016, Vivienne a choisi le Brexit, mais aujourd'hui, elle est perdue.
I don't think I understood it fully, to be honest.
Quand j'ai voté, dit-elle, il y a plein de choses que je ne savais pas, qu'on aurait des problèmes pour voyager, que des gens risquaient de perdre leur emploi. Je ne suis plus sûre d'avoir fait le bon choix. À Swansea, le camp du Leave est désormais minoritaire. Et au Pays de Galles, une quinzaine de circonscriptions ont basculé. Inaudible en 2016, les pro-européens ont réinvesti le terrain. Et c'est leur long travail de pédagogie qui a retourné certains brexiteurs, assure un militant, James McGettrick.
Il a fallu leur expliquer que l'Europe n'était pas responsable de tout, que leur niveau de vie, l'immigration, les prix de l'immobilier dépendent surtout de notre gouvernement. À force, ils ont compris et ils ont changé d'avis. C'est pour ça qu'on veut un deuxième référendum. Mais est-ce que ce sera possible? J'en sais rien, parce que personne ne sait ce qui va se passer après le vote au Parlement. Ni Theresa May, ni l'opposition, personne.
Après deux ans de psychodrame et de confusion, le Pays de Galles voudrait surtout mettre un terme à cette grande comédie.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale de France Culture au Pays de Galles. Le vote du Parlement britannique est donc prévu demain après-midi. Toutes les grandes lignes ferroviaires sont interrompues ce matin en Allemagne, et cela en raison d'une grève d'avertissement des cheminots. Ils souhaitent peser sur les négociations salariales. Les syndicats réclament une hausse de 7,5% des salaires et formulent également des revendications portant sur le temps de travail ou encore les congés. Le temps de ce lundi s'annonce plus clément, entre nuages et éclaircies. Seules quelques averses doivent persister de l'Auvergne jusqu'au nord-est. Comptez ce matin 6 degrés à Lille, 7 à Brest et Strasbourg, 8 degrés à Paris et Lyon, 9 à Bordeaux, 12 à Perpignan, 14 degrés à Nice et sur la Corse.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.